êtes bien sur Radio Orient, il est midi, votre rendez-vous d'information avec vous, Marc-Aurèle Barrez. À la une de cette édition, Emmanuel Macron fustige les dernières frappes iraniennes contre les Émirats, des attaques inacceptables et injustifiées d'après le président français. Christophe Glaise, le journaliste emprisonné en Algérie, renonce à son pourvoi en cassation. Et au Liban, le président Joseph Aoun l'annonce, il ne rencontrera pas Benjamin Netanyahou avant la fin des agressions israéliennes. Et dans le dossier du jour, nous reviendrons sur les dernières tensions dans le Golfe. Après plusieurs semaines d'accalmie relative, l'Iran et les États-Unis ravivent leur confrontation autour du détroit d'Ormuz. Et nous parlerons aussi du rapport du député UDR Charles Aloncle sur l'audiovisuel public. Il a formulé une dizaine de recommandations sur l'avenir du service public qui font réagir, vous le verrez, jusqu'au sommet de l'État. Bonjour, le bras de fer avec les États-Unis n'a même pas encore commencé, c'est ce qu'affirme le président du Parlement iranien, Mohamed Bagher Khalibaf, au lendemain d'accrochage dans le détroit d'Ormuz. Et toujours dans le Golfe, après les dernières attaques iraniennes contre les Émirats Arabes Unis, les réactions internationales se sont multipliées. Emmanuel Macron a fustigé des frappes injustifiées et inacceptables. L'Arabie Saoudite, quant à elle, a mis en garde contre une escalade militaire et appelle à désamorcer la situation. Et les combats se poursuivaient encore lundi entre le Hezbollah et Israël dans le sud du Liban, en dépit de la trêve toujours en vigueur. Le président libanais Joseph Aoun a rappelé qu'un accord de sécurité avec Israël et la fin des agressions israéliennes devaient avoir lieu avant toute rencontre avec Benjamin Netanyahou. Et le journaliste, nous le disions dans les titres, le journaliste français Christophe Glaise, détenu en Algérie, renonce au pourvoi en cassation, une décision qui ouvre la voie à une possible grâce du président Tebboune. Sur France Inter, ce mardi, la famille du journaliste a affirmé qu'il s'en remettait totalement à la clémence du chef de l'État algérien. Et Israël prolonge de 6 jours la détention de 2 activistes de la flottille pour Gaza. L'audience au tribunal d'Ashkelon a lieu aujourd'hui. L'Espagnol Saïf Abou Keshek et le Brésilien Tago Avila sont accusés par Israël d'avoir des liens avec le Hamas palestinien. Dans un tout autre volet maintenant, en Ukraine, 6 morts, dont des secouristes après des frappes russes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dénonce, je cite, « le cynisme absolu de la Russie ». Il accuse Moscou de continuer ses attaques tout en demandant un cessez-le-feu. Et en effet, la Russie a annoncé un cessez-le-feu unilatéral avec l'Ukraine à l'occasion des commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale, les 8 et 9 mai prochains. Kiev, de son côté, déclare que l'Ukraine observera sa propre trêve à partir du 6 mai. L'Organisation mondiale de la santé soupçonne une transmission interhumaine de l'antivirus. Elle signale aussi 2 nouveaux cas confirmés de cette maladie, ainsi que 5 personnes suspectées à bord d'un navire de croisière néerlandais, dont l'Espagne vient d'accepter l'accostage sur son territoire dans les Canaries. Ce foyer a déjà coûté la vie à 3 personnes. Enfin, en France, la proposition de loi de Bruno Retailleau contre l'entrisme islamiste doit être examinée aujourd'hui au Sénat. Des mesures pour faciliter la dissolution d'associations et durcir les sanctions pour atteinte aux principes de la République. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de votre écoute. On se retrouve tout de suite pour les dossiers du jour. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Orient. Place à présent au dossier du jour. Nouvelle montée de tension dans le Golfe. Après plusieurs semaines de trêve, l'Iran et les États-Unis se sont de nouveau affrontés autour du détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le pétrole et le gaz. Des tirs iraniens ont aussi visé les Émirats Arabes Unis, provoquant de nombreux appels à la désescalade. Le compte-rendu de Nadia Bencher.
Les appels au calme se multiplient après une nouvelle poussée de fièvre dans le Golfe. En cause, des accrochages entre forces américaines et iraniennes autour du détroit d'Ormuz. Cette voie maritime est l'une des plus sensibles au monde. 1/5 de la consommation mondiale de pétrole et de gaz naturel liquéfié y transite habituellement. Mais depuis le début de la guerre, engagée le 28 février par les États-Unis et Israël contre l'Iran, Téhéran contrôle ce passage stratégique. Pour tenter de rétablir rétablir le trafic, Donald Trump a lancé lundi une opération militaire baptisée Project Freedom. Le commandement américain pour la région affirme que deux navires marchands battant pavillon américain ont pu franchir le détroit avec succès. Téhéran dément. Les forces américaines disent aussi avoir détruit 6 embarcations iraniennes menaçant la navigation commerciale. Là encore, l'Iran conteste et accuse Washington d'avoir tué 5 civils en ciblant 2 bateaux partis d'Oman. La tension est aussi montée d'un cran sur la terre ferme. Aux Émirats arabes unis, le site pétrolier de Fujairah a été visé par un drone provoquant un incendie. 3 ressortissants indiens ont été blessés. Abu Dhabi affirme également avoir été ciblé par 4 missiles de croisière lancés depuis l'Iran. Un pétrolier de la compagnie nationale ADNOC aurait aussi été visé par 2 drones iraniens. Ces attaques sont les premières contre des installations civiles dans un pays du Golfe depuis l'entrée en vigueur le 8 avril d'un cessez-le-feu entre Téhéran et Washington. Les Émirats dénoncent une escalade dangereuse et se réservent le droit de riposter. Face au risque d'embrasement, Paris, Riyad, Londres et Berlin appellent à la retenue. Emmanuel Macron juge les frappes contre les Émirats inacceptables. L'Arabie Saoudite met en garde contre une nouvelle escalade militaire. Côté iranien, le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi affirme qu'il n'y a pas de solution militaire à une crise politique, mais les négociations restent bloquées malgré une première rencontre directe entre Américains et Iraniens le 11 avril à Islamabad.
Merci Nadia Bencher. Second dossier du jour, la fin demain mercredi du pèlerinage de la Khriba sur l'île de Djerba en Tunisie. C'est la plus ancienne synagogue d'Afrique. Ce pèlerinage est un événement annuel en Tunisie. C'est aussi un moment très important pour les autorités tunisiennes. Il a plusieurs fois été la cible d'attentats. Il se déroule cette année dans un contexte de guerre au Moyen-Orient. L'ancien ministre du tourisme tunisien René Trabelsi, l'un des organisateurs de cet événement.
Il y a eu un stop avec les événements au Moyen-Orient, mais cette année, on a senti qu'il y avait une demande de la part des pèlerins à l'étranger qui voulaient venir à Djerba pour pèleriner, et surtout la volonté des autorités tunisiennes et l'État tunisien pour renouer avec ce pèlerinage. Vous le savez, sur l'île de Djerba, qui est une île touristique, et on a senti qu'il y avait un besoin de revenir sur l'île.
Vous l'avez dit, hein, ce pèlerinage se déroule une nouvelle fois dans un contexte particulièrement tendu au Moyen-Orient, peut-être encore plus cette année que les années précédentes, avec la guerre, les frappes israéliennes encore dimanche, notamment sur le Liban, cela malgré la trêve, la situation plus que catastrophique dans la bande de Gaza. Comment cela s'est ressenti lors de ce pèlerinage?
Écoutez, ici à Djerba, on ne parle pas beaucoup des événements au Moyen-Orient, hein, que ce soit la guerre à Gaza, au Liban, au Iran, mais les pèlerins qui viennent de l'étranger tiennent compte de ce qui se passe au Moyen-Orient, et c'est tout à fait normal que des fois il y a des craintes pendant la visite en Tunisie, ou surtout à Djerba, pour un pèlerinage. Quand même, c'est un des plus grands pèlerinages juifs en Afrique. Et en le comprenant, hein, l'attitude des gens, mais la vérité, on fait la part des choses. C'est un pèlerinage juif tunisien. Ici, en Tunisie, on fait la part des choses. On ne mélange pas ces événements avec un pèlerinage qui est 100% tunisien, que les autorités nous demandent de l'organiser et qui mettent la sécurité pour que ça se passe dans les meilleures conditions.
C'était l'ancien ministre du tourisme tunisien, René Trabelsi, au micro de François-Xavier de Calonne. Et dernier dossier du jour, le député UDR Charles Alloncle formule non pas une dizaine, mais des dizaines de recommandations sur l'avenir de l'audiovisuel public. Un rapport publié à l'issue d'une commission d'enquête mouvementée. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a pris ses distances avec les conclusions de ce rapport controversé. Vous nous en dites plus, Loïc Barrière.
Le rapporteur de la commission d'enquête, Charles Alloncq, a posé un diagnostic sans concession. Selon lui, l'audiovisuel public est en crise financière et administrative en raison d'une perte de contact avec les attentes des Français. Aussi préconise-t-il une refonte totale ou partielle du fonctionnement des grandes entités du secteur. Il demande notamment la fusion de France 2 et France 5 et la réduction du budget des sports. Le député ciotiste réclame une cure d'austérité pour France Télévisions, rappelant qu'il s'agit d'argent public. Il pointe aussi la partialité du service public. Il propose donc d'instaurer un devoir de réserve renforcé applicable aux présentateurs, animateurs, producteurs et décideurs éditoriaux de premier plan, comprenant des obligations déontologiques spécifiques sur les réseaux sociaux. Une des propositions les plus controversées de Charles Alloncq est de modifier le mode de désignation des dirigeants de l'audiovisuel public pour qu'il soit nommé directement par le président de la République après avis des commissions des affaires culturelles du Parlement. Dans un communiqué diffusé sur X, la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, a dénoncé un rapport à charge construit selon elle sur des insinuations, des approximations et des contre-vérités. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a lui regretté que ce rapport passe malheureusement à côté de l'essentiel, les constitue une occasion manquée. Il défend cependant le besoin de réforme. Avant la publication de ce rapport, Jordan Bardella a promis qu'il engagerait la privatisation de l'audiovisuel public si le RN accède au pouvoir.
Merci Loïc Barrière pour ces précisions. C'est la fin de cette édition. Merci d'y avoir prêté attention. Merci à Raymond Jouan pour la technique. Excellente suite des programmes sur Radio Orient.